Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Crise dans l'est de la RDC. La communauté humanitaire redéfinit les priorités de son plan de réponse. En cause, le manque de fonds, explique le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Téné, sur plus de 2 milliards de dollars attendus pour aider 11 millions de personnes en RDC. Seulement la moitié reçue jusqu'ici, affirme Stéphane Dujarric. Et puis ce SOS d'un élu de Chabunda dans le sud Kivu, il tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie difficiles des enseignants de la zone éducative sud Kivu 3. Cela fait 4 mois que ces enseignants n'ont pas perçu leur salaire, dit-il. L'invité de ce matin, l'abbé Pascal Lakumba, recteur du grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani, y donne son témoignage sur le pape Léon XIV. Ce dernier, alors membre du clergé de l'ordre de Saint-Augustin, avait séjourné en RDC en 2002. Madame, Messieurs, bonjour. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires en République démocratique du Congo annonce qu'en raison d'un manque de fonds, la communauté humanitaire redéfinit les priorités de son plan de réponse. C'est ce qu'indique le porte-parole du secrétaire général de l'ONU dans son briefing d'hier vendredi à New York. Pour rappel, le plan de réponse humanitaire complet de cette année vise à aider 11 millions de personnes à travers la RDC pour un coût de 2,5 milliards de dollars, précise Stéphane Dujarric. Plus de détails avec Grace Amzati.
Dans le cadre de ces plans, nos partenaires humanitaires ont identifié des interventions vitales pour aider 6,8 millions de personnes parmi les plus vulnérables pour un coût d'1,25 milliard de dollars, soit environ la moitié des besoins du plan complet. Mais à ces jours, seuls 233 millions de dollars ont été reçus. C'est seulement la moitié du montant que nous avions obtenu à la même époque l'année dernière, malgré l'augmentation des besoins à la suite de la crise dans l'Est, précise OCHA. La structure onusienne appelle également à une plus grande protection des civils dans les zones touchées par les conflits et à un soutien accru pour empêcher l'effondrement des services essentiels et s'attaquer aux causes profondes de la crise. Pour illustrer la gravité de la situation humanitaire, le gouvernement congolais a officiellement déclaré une épidémie de choléra dans 6 provinces. Plus de 18 000 cas de choléra et 364 décès ont été signalés depuis janvier et les autorités sanitaires sont confrontées à une pénurie de fournitures médicales. Les autorités ont demandé un soutien accru à leurs partenaires, notamment pour renforcer la surveillance épidémiologique, garantir l'accès à l'eau potable et distribuer des kits d'hygiène.
Par ailleurs, l'Union européenne s'est dit encore préoccupée par le conflit dans l'est de l'RDC, mais en même temps, elle continue à accompagner les efforts de paix en cours pour amener la paix. Déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC hier à Kinshasa. C'était devant des journalistes à l'occasion du 75e anniversaire de la création de cette organisation. À cette même occasion, Nicolas Berlanga a réaffirmé la coopération de l'Union européenne dans la réforme des forces de défense de la RDC. On écoute l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC au micro de Martin Sebujangwe.
On est très attentif à toutes les initiatives de paix. On observe avec attention la volonté politique de la partie qui agresse par rapport à ces possibles accords de paix. Et on va être à l'auteur pour accompagner d'abord la situation humanitaire, comme je vous ai dit, après les efforts de paix, les négociations, les dialogues. Et même si vous ne le voyez pas, l'Union européenne s'est adhérée à tous ces efforts en faveur d'une solution politique. Et aussi, on espère bien pouvoir être dans la table des négociations pour mettre des projets à l'échelle régionale qui pourraient convaincre, qui pourraient faire partie de cette conviction qu'il faut passer aux deux parties pour montrer qu'en mettant en commun la gestion des ressources, finalement tout le monde sort gagnant.
Entre-temps, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge CICR, Mirjana Spoljaric, a conclu jeudi 8 mai sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Elle a rencontré la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadiamvita et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner. Selon un communiqué publié par le CICR hier vendredi, leurs échanges ont porté sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Ils ont en particulier discuté des conséquences dévastatrices des conflits sur les civils dans l'est de la RDC et du rôle crucial que le droit international humanitaire peut jouer dans leur protection ainsi que l'atténuation de leurs souffrances. D'autres détails avec vous, Alain Hirumushinji.
Les officiels congolais et la présidente du comité international de la Croix-Rouge ont aussi parlé de l'opération en cours facilitée par le CICR pour accompagner plusieurs centaines de soldats et policiers ainsi que quelques membres de leur famille de Goma à Kinshasa. Madame Spoliarik a réitéré la volonté du CICR à mettre en œuvre tout accord humanitaire en tant qu'intermédiaire neutre. Cette visite a aussi été l'occasion de discuter de la participation de la RDC à l'initiative mondiale visant à révitaliser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire. Ce projet exceptionnel a été lancé en septembre 2024 par le CICR en coopération avec 6 pays pour mobiliser les États du monde entier autour de l'objectif d'un meilleur respect des règles de la guerre. À Kinshasa, la présidente du CICR s'est également entretenue avec le président de la Croix-Rouge de la RDC, Grégoire Mateso Mbutawai, sur le renforcement du partenariat entre les deux institutions et la coordination au sein du mouvement Croix-Rouge.
Dans l'actualité aussi, clôture hier vendredi dans la ville de Beni au Nord Kivu de la deuxième session d'une formation de 4 semaines au profit d'au moins 100 soldats des FARDC, formation sur les techniques de combat en jungle, organisée par l'unité spéciale du contingent brésilien de la MONUSCO. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées congolaises. Tout en saluant la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC, le général-major Bruno Mandevu, commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord des FARDC, estime que cette session a permis de renforcer les capacités d'intervention des militaires formés sur le champ de bataille. On écoute le général-major Bruno Mandevu dans ses propos recueillis par André Kitenge.
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au commandant de la force de la MONUSCO qui, pour la deuxième fois, a bien voulu répondre favorablement à notre demande en mobilisant les moyens humains et logistiques nécessaires à la réalisation de cette formation en environnement de jungle. Grâce à cet appui, nos troupes bénéficient désormais de compétences renforcées et adaptées aux réalités du terrain, ce qui leur confère une meilleure capacité d'intervention sur les champs de bataille. Nous saluons également l'engagement et le professionnalisme de l'équipe des formateurs. C'est une équipe d'éléments précieux qui s'est donné le temps pour bien encadrer nos voyants combattants. Cette collaboration témoigne de l'importance du partenariat entre nos forces armées et la MONUSCO dans notre lutte commune pour la paix et la sécurité dans la région.
Les militaires formés ont reçu leur brevet des mains du commandant de la force de la MONUSCO et du commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord. Les miliciens Mobondo tracassent les voyageurs sur la route nationale numéro 17 au niveau du village Kinsele. Ils y ont érigé une barrière où ils imposent des taxes à tout transporteur avant de passer. Cette barrière se trouve à quelques mètres de celle de la régie financière du Maïndombe. Du coup, deux postes de perception des recettes fonctionnent parallèlement dans ce coin, dénonce le député provincial David Bisaka, élu du territoire de Kwamout. Le gouverneur du Maïndombe rassure que cette barrière sera supprimée bientôt. Irène Boma nous en dit plus.
D'après le député provincial David Bisaka qui alerte, cette situation se passe précisément à Kinsele, village qui fait frontière entre les territoires de Kwamout au Maïndombe et celui de Maluku à Kinshasa sur la route nationale numéro 17. Ici, les miliciens Mobondo ont érigé une barrière où ils perçoivent des taxes. Ces hommes armés exigent à chaque transporteur les papayements en nature de l'équivalent de 2 sacs de manioc, plus une somme d'au moins 50 000 francs congolais. L'élu de Kwamout déplore cet état de choses qu'il appelle tracasserie à outrance dont sont victimes les paisibles voyageurs qui sont obligés de payer doublement la taxe. Pour les gouverneurs de la province du Maïndombe qui reconnaissent cette situation, les services sont à pied d'œuvre pour démanteler cette barrière de Mobondo. Les Bonkoso Kevani.
Tout à fait, vraiment, le travail est en train d'être fait de manière à ce que toutes ces barrières-là soient interdites. La population puisse évacuer librement à des occupations.
Actuellement, la situation sécuritaire est relativement calme à Kwamout, sauf quelques cas isolés de sécurité qui ne manquent pas, a fait savoir l'autorité provinciale Nkoso Kevani. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, le député national Wenda Mukangwa, élu du territoire de Shabunda dans le sud Kivu, tire la sonnette d'alarme sur les conditions difficiles vécues par les enseignants de la zone éducative sud Kivu 3. Selon cet élu, cela fait 4 mois que ces professionnels de la craie de Mwenga, Shabunda et Fizi n'ont pas eu accès à leur salaire. Il a évoqué cette situation au cours de la plénière de jeudi à l'Assemblée nationale. Cette situation exacerbée par l'incapacité de Caritas Bukavu à payer ses enseignants en raison du conflit en cours au Kivu plonge ces Congolais dans une situation indescriptible, révèle-t-il. Wenda Mukangwa plaide pour une implication rapide des autorités, propos recueillis par Ronéline Tibonera.
J'interviens devant vous pour informer l'Auguste Assemblée de 4 mois d'impayement des salaires des enseignants de Mwenga et de Shabunda. C'est pour cette raison que je demande à l'Auguste Assemblée et au bureau de pouvoir donner des injonctions au ministre ainsi que à cette association caritative qui paye ses enseignants. Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Et je propose qu'on paye, parce que la Caritas est au Maniema et que Maniema n'est pas sous occupation. On peut donner pour Shabunda, Kalima peut servir la partie nord, c'est-à-dire les Shabunda Centre, Matili, Lulingu, un peu partout, et ce sera une solution pour cela. Je pense aussi pour ceux de Fizi, ils peuvent être servis par Caritas Uvira, qui n'est pas sous occupation jusqu'à maintenant.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Ici, nous apprenons que plusieurs aires de santé de la zone de santé de Binza sont privées d'eau potable depuis plus de 8 mois. Les plus touchées sont les aires de santé de Kasave et Nyabanira. Selon diverses sources dans la région, cette situation est due à des problèmes techniques, notamment des tuyaux et des vannes défectueux qui entravent l'acheminement de l'eau vers ces structures de santé. L'infirmier superviseur de la zone de santé de Binza, Kasereka Bwangera, souligne que ce manque d'eau nuit gravement à la prise en charge des patients dans toutes les structures de santé de la région. On l'écoute.
Dans une structure sanitaire, vraiment, l'eau est essentielle. Je peux dire que c'est le premier médicament. Parce que d'abord, dans la prise en charge, nous l'utilisons dans le cas de fièvre. Donc, si un malade vient avec une température très élevée, il est recommandé de baisser cette fièvre d'abord avec de l'eau. Mais aussi, nous utilisons beaucoup l'eau dans le service de maternité. À partir des données que nous recevons de ces milliers-là, de Nyabanira et autres coins de la zone de santé, où il y a la carence en eau potable, il y a des données qui augmentent par rapport à des maladies d'origine hydrique. Les partenaires qui travaillent dans ces domaines-là, vraiment, sont les bienvenus. S'ils reçoivent ces messages, ils n'ont qu'à venir travailler avec notre équipe de la zone de santé pour voir comment remédier ces problèmes dans les aires de santé qui en ont besoin.
Pour ce responsable, cette situation ne saurait perdurer. C'est pourquoi il lance un appel urgent aux acteurs humanitaires du secteur d'adduction d'eau afin de soulager les populations de cette zone aujourd'hui exposée à des risques de maladies. Direction l'Ituri. Parlons de cette bonne nouvelle pour les populations d'Aru et de Mahagi. Deux micro-centrales hydroélectriques sont en cours de construction dans ces territoires. L'une d'elles est déjà opérationnelle pour alimenter plusieurs usines locales et desservir les ménages à Mahagi et qui jusque-là n'étaient pas alimentés en électricité. L'autre est en construction à Ingbokolo depuis une semaine pour pallier le manque d'électricité. Des initiatives encouragées par les notables pour le développement de la région et la lutte contre le chômage des jeunes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les travaux de construction de la première microcentrale hydroélectrique dans le territoire d'Aru ont été lancés jeudi par une association de techniciens dénommée les Amis pour la promotion hydroélectrique sur les ruisseaux d'Azou dans les groupements Kumuru en chefferie des Kakwa. Selon l'initiateur de ces projets, Jean-Pierre Diri, cet ouvrage a une capacité de produire un courant électrique de 200 à 300 kVA et pourra alimenter plus de 3000 ménages. Un sentiment de gratitude pour Boto Chamalich, président des développements de la chefferie, qui appelle à une mobilisation communautaire pour soutenir cette initiative. Un autre projet similaire inauguré cette semaine dans le territoire de Mahagi permet d'alimenter les usines de transformation locales, mais aussi booster la chaîne de production du café destinée à l'exportation. Jean Lossani Atinda, chef de la chefferie des Djoukotes.
L'objectif primordial du projet était d'alimenter la radio Colombe d'Indrélé dans le but de sensibiliser tous les agriculteurs pour une bonne production, quoi. Que ça soit de café et tant d'autres produits agricoles. Il y a aussi le laboratoire des cafés qui sera aussi alimenté par ces courants-là.
Les notables de ces entités appellent le gouvernement à soutenir ces initiatives en les exonérant des taxes afin de promouvoir l'entrepreneuriat local. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale. Sixième journée consécutive des bombardements vendredi à Port-Soudan. Hier, des frappes des drones ont touché une base navale militaire située dans le nord de la ville. L'ONU s'est dit inquiète. Les forces de soutien rapide du général Emeti sont accusées d'être les auteurs de ces frappes. Le secrétaire général de l'ONU est alarmé par l'expansion du conflit dans une zone qui servait de refuge pour un grand nombre de personnes déplacées venues de la capitale Khartoum et d'autres régions, a déclaré lors d'une conférence le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons l'abbé Pascal Lakumba, recteur du grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani. Il fait un témoignage sur le pape Léon XIV. Ce dernier, alors membre du clergé de l'ordre de Saint-Augustin, avait séjourné en RDC en 2002 lors de la commémoration du cinquantenaire de cette congrégation religieuse catholique. À cette occasion, il s'était rendu dans quelques paroisses dans le diocèse de Dungu, dans le Haut-Ouélé, ainsi que dans celle du Bas-Ouélé, où œuvre des Augustins. L'abbé Pascal Lakumba est avec Jacques Mukonkole.
Monsieur l'abbé Pascal Lakumba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes l'une des personnalités religieuses ayant connu le nouveau souverain pontife, alors membre du clergé. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré?
Je l'ai connu quand on était encore en formation. Alors, il est venu au Congo, ici, chez nous, à l'occasion des 50 ans de l'existence des Augustins au Congo. Et c'était en 2002.
Et vous l'avez rencontré où exactement?
Je l'ai rencontré exactement dans ma paroisse à Amadi.
Amadi, c'est où?
Dans le diocèse de Dungu-Durumah, précisément dans le Bas-Ouélé.
Et pendant son séjour, il a certainement visité différentes paroisses de sa congrégation à Dungu.
Dans le diocèse de Dungu-Durumah, les Augustins se trouvent à Dungu sur place, côté de la cathédrale, là où se trouve leur communauté, mais en même temps, leur maison de formation qui correspond à l'étape du petit séminaire qu'on appelle les Juvenats. Ça s'appelle les Juvenats Ossa.
Et vous l'avez rencontré à Dungu?
Je l'avais rencontré à Amadi, qui est une des paroisses tenue par les Augustins. J'étais là pendant les vacances. Il est arrivé aussi quand il a commencé à Dungu, sa visite. Dungu est dans le Haut-Ouélé. Après maintenant, il devrait se rendre dans le Bas-Ouélé, là où il y a deux communautés de pères Augustins. C'est d'abord à Poko, dans les paroisses qui s'appellent Saint-Augustin, et à Amadi, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, en plus de la paroisse, il y a leur maison de formation et c'est le noviciat.
Est-ce que ces déplacements ont été faciles pour lui? Quand on sait que les routes à l'intérieur du pays posent problème.
C'était facile pour lui comme augustinien, dans la mesure où, comme dit Saint Augustin, quand il y a l'amour, tout devient facile. Mais sinon, en réalité, c'était difficile, vu l'état des routes dans le Congo profond.
Alors, quel genre d'homme avez-vous connu à l'époque? Comment vous pouvez le caractériser?
C'est un prêtre, mais un prêtre simple. Malgré sa grandeur d'être le prieur général, c'est un homme simple, vraiment un homme de Dieu, un homme sensible aux autres, notamment les petits et les pauvres. C'est un homme aussi attentif comme un bon pasteur, attentif comme un bon responsable, pour que aucun problème, aucune situation ne lui échappe. Pour résumer en disant, c'est un homme bon. Je pense que c'est à cause de tout ça aussi que l'Esprit Saint a jeté son dévolu sur lui.
Bon, simple, accessible, c'est donc là le souvenir que vous gardez de lui, de sa personnalité?
Tout à fait. C'est un homme bon, un homme simple, un homme attentif et aussi un homme souriant. C'est un rassembleur aussi. C'est quelqu'un qui sait aussi travailler à la paix là où il y a des problèmes.
Comment avez-vous accueilli son élection comme pape?
Moi, je l'ai accueilli très positivement et surtout que c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré, que j'avais déjà vu, alors que les autres papes, moi, je les ai vus seulement à la télévision. Même quand le pape François est venu, j'étais ici, je n'étais pas à Kinshasa. Avant d'être pape, je l'avais déjà connu et le fait qu'il soit élu pape, ça ne devrait qu'être une grande joie pour moi et je prierai pour lui pour que son pontificat soit un pontificat réussi.
Qu'est-ce que la RDC peut attendre de lui pendant son pontificat?
Pendant son pontificat, parmi des problèmes qui assaillent notre pays, c'est le défi de la paix. Je pense qu'il s'intéressera au problème de la paix dans notre pays, et je pense aussi que c'est ce que je peux oser dire, que c'est ce que nous attendons aussi de lui, qu'il s'intéresse à notre pays et surtout contribuer à l'instauration de la paix dans notre pays.
Monsieur l'abbé Pascal Lakoumba, merci.
C'est à moi de vous remercier pour cette interview où j'ai osé me prononcer sur une grande personnalité qui est notre pape actuel aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier et c'est une grande joie pour moi aussi.
Le recteur du grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.